Alors, je suis très intimidée parce que tout ce que j'ai entendu était très, très large, très complexe et rassembler quelque chose de ces différents points de vue eux-mêmes très larges et complexes, ça pose beaucoup de problèmes. Cependant, on adhère, je crois, tous aussi, à chaque fois, à ce qui est dit et qui présente un point de vue qui est très rassemblant, finalement. Alors, je vais donner mon petit modèle qui va s'articuler plus ou moins bien, mais je crois s'entrecroiser quand même avec beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, en préalable, moi, je voudrais affirmer une conviction, je me trompe peut-être complètement, mais pour le point de départ, c'est un petit modèle de développement avec les apports des approfondissements de la psychanalyse, mais qui intègre aussi beaucoup de modèles utilisés aussi par le cognitivisme, c'est-à-dire sa part des sensorialités, et puis alors où est l'émotion, qu'est-ce que c'est que l'émotion, alors là il y a des tas de clivages entre les théories, mais à l'intérieur même de notre théorie psychanalytique, il y a encore une discussion s'il existe une étape purement sensorielle ou si elle est d'emblée émotionnelle, si ça va ensemble. Or, je suis de plus en plus convaincue que la sensorialité est d'emblée émotionnalisée dans la communication et sa spatialisation. Il y a le problème de la spatialisation de la communication qui me paraît très importante et qui est due justement à l'émotion. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, émotion ? C'est un mouvement hors de soi. Alors, vous allez me dire, au plus primitif, il n'y a pas encore de soi ni de moi. Eh bien, si, il y a des ébauches du sentiment de soi qui sont maintenant affirmées dès le prénatal par plusieurs auteurs. Et évidemment, c'est un sentiment de soi très partiel, mais dû justement à l'affrontement déjà de la même-té et des petits différentiels qui existent dès la vie prénatale et dès la naissance et qu'on voit très bien dans l'imitation de type précoce qui n'est pas où il y a un petit soi qui est conscient et je rejoins ceux qui pensent qu'il y a une conscience très précoce et que ce qu'on a appelé fantasme inconscient à ces niveaux où ça apparaît est tout à fait conscient. Alors, d'un niveau de conscience, il faudrait discuter. Il y a un mouvement hors de ce soi très précoce vers un objet qui n'est pas encore du tout l'objet total, un objet, on pourrait dire, non connu, pour la satisfaction du besoin, mais déjà pour un plaisir de rencontre qui a déjà été éprouvé, ce plaisir, et dès la vie prénatale, dans le dialogue tonico-émotionnel, par exemple, dont on reparle peut-être pas tout à fait assez, et qui est très important pour commencer cette pensée des formes, cette organisation des représentations en forme, qui me paraît la base de notre intérieur représentatif, enfin de nos images internes. Alors, cette émotion primitive aussi, alors je rejoins la théorie de la des pulsions, et tout de suite ça me fait faire un petit lien avec ce que M. Burnot a dit au sujet de l'activité spontanée qu'il a d'ailleurs prononcé le mot drive à cette occasion, ce qui vient de l'intérieur, et ce qui vient de l'intérieur c'est le point de départ pulsionnel, qui vient des excitations internes qui cherchent à être apaisé par l'assouvissement du besoin, mais pas seulement. Il y a certainement alors une pulsion qui a été appelée pulsion d'attachement, une pulsion vers la rencontre, une pulsion vers un contact. Et donc cette pulsion est quelque chose qui pousse, qui pousse de l'intérieur et qui va se rencontrer ou pas avec des attractions ajustées. Notre pulsion, par contre, vient du système neuroendocrinien avec des schémas génétiquement programmés pour la vie, pour le développement de la vie. Par conséquent, on peut considérer d'emblée que se fait une qualification de l'excitation. Là, je fais allusion à la grande discussion freudienne sur le côté excitation le côté qualifié, voilà, de la piste. Et qu'il n'y a pas un premier niveau sensoriel, donc un autre niveau émotionnel. Nous sommes, je reprends le mot de Frances Pustin, avec des sensations-émotions. Mais il faut pour cela que la première relation déjà engagée in utero se poursuive dans une organisation rythmique et prévisible, suffisamment prévisible, parce qu'il y a déjà des rythmicités qui se sont installées, la vie prénatale, qui doit défier les angoisses spatiales majorée par le traumatisme de la naissance, qui est dû en grande partie, comme vous le savez tous, au grand désordre labyrinthique du passage de la vie aquatique à la vie aérienne. La naissance s'accompagne donc en effet obligatoirement de sensations de chute et de répansion dues à l'attraction des flux gravitaires, qui donne en même temps une première expérience de verticalité qui est bien expliquée par Anzieux déjà, et Bullinger a beaucoup repris ça, de montrer que c'était les flux gravitaires qui nous donnaient un tout premier sentiment de verticalité. Ça, je vais les découvrir très tard. Un autre grand changement à la naissance est celui du tactile, qui perd la contrepression de l'eau. Et le bébé nouveau-né exprime immédiatement son besoin d'être enveloppé par des hurlements et touché, comme s'il se sentait dépouillé ou démoulé, selon les termes d'un collègue jungien, Olivier Marc. Alors, je propose quelque chose pour le mamanais, et j'aimerais avoir vos impressions. Le mamanais paraît une forme vocale adaptée à la période postnatale pour accompagner ces changements, et notamment pour accompagner cette première verticalisation couplée à la lutte contre les flux gravitaires, qui procurent donc des angoisses archaïques, ces angoisses archaïques que j'ai déjà nommées, qui provoquent le réflexe de Moreau et différentes sortes d'agrippements. Alors, c'est une interrogation. Est-ce que le pitch du mamanais, c'est-à-dire la haute note sonore, ne nous attrape pas par en haut? Et là, je m'entrecroise un peu avec ce qui m'a beaucoup intéressé, beaucoup aidé au début avec les autistes, alors que dans le milieu psychanalytique, on ne parlait pas tellement de ça. C'est tous les travaux représenté en France principalement par Henri Maldinet, mais tout le courant de Erwin Strauss, de la sensorialité à la motricité, enfin tout ce courant qui a... et phénoménologique, excusez-moi, et qui nous dit, et alors là, quel est l'impact de ces éléments de la physique au fond, des sons, des couleurs, ça, qui ont des fréquences, une question de fréquence, qui atteindraient le corps à des niveaux différents. C'est là qu'il y a les hautes notes qui nous transportent dans les voltiges musicales, hein, et il y a les basses notes qui, au contraire, comme la basse continue, et aussi les batteries qui nous soutiennent, qui nous aident à atterrir. Et c'est très, très impressionnant, justement, de voir comment la voltige du mamanais, à condition qu'elle soit couplée au soutien du dos, de la tête et du siège, comment cet assemblage réussit à établir les modulations et tout ce que vous venez de développer, monsieur Burneau, je crois. Donc, dans le domaine visuel, nous avons la lumière avec les différentes brillances, et ça, James Gamil, un de mes maîtres en psychanalyse enfant, quand je racontais les histoires des autistes qui sont très accrochés aux brilles, hein, quand ils sont obligés de s'agripper, ils vont s'agripper aux brilles, qui est une attraction donc comprise dans notre dans nos dispositions de base, et que ce brille va amener aux yeux. Et si c'est bien soutenu, et bien entouré aussi par la musique vocale en particulier, il y a le brille. Alors dans le domaine des couleurs, il y a la haute note jaune, hein, qui élève et verticalise jusqu'à la manie et jusqu'à la folie de Van Gogh, par exemple. Et alors les sons graves moyens atteignent le corps au milieu, et les sons très graves donnent vraiment le soutien d'arrière-plan de l'assise et de la plante des pieds. Alors d'autre part, le pitch sonore semble se condenser avec l'attraction du regard, donc l'intensité lumineuse du bruit, puis la spatialisation du regard, parce que, la neurophysiologie nous aiderait peut-être beaucoup, il y a une spatialisation du regard sur une image motrice de lancer. D'ailleurs, le langage courant dit « on lance le regard ». Et à ce moment-là, d'ailleurs, c'est quelque chose qui aide à former la tridimensionnée, la troisième dimension de l'espace et du self et des formations corporelles. Alors, il y a une chose très, très intéressante par rapport à l'histoire du regard, c'est l'expérience de la... Une fois que l'enfant est au visage, hein, ce qui ne veut pas dire qu'il a encore la possibilité de garder l'image interne du visage. L'image interne du visage, ça vient très tard et ça vient au moment de la crise d'attachement. Donc on va en reparler pour l'histoire de la crise d'attachement très prolongée du bébé de Marie-Christine. Il y a dans ce que les enfants autistes nous racontent, il y a une expérience, des expériences dans la bouche qui sont très importantes. Bon, la psychanalyse depuis longtemps par rapport à ces éléments-là parle de l'établissement de la continuité langue-mamelon, et j'ajoute maintenant langue-mamelon-œil, justement, avec leur caractère d'interpénétration. Et cette histoire du caractère d'interpénétration de ces éléments médians de la cavité buccale sont très vite indiqués par les enfants, par les bébés et par les enfants autistes qui émergent comme étant déjà mis en bisexualité. Ils sont mis au paternel, ces éléments, hein, et les éléments d'enveloppe, par contre, sont laissés au maternel. Mais il y a par rapport aux orifices, les petits orifices qui passionnent les bébés à un moment donné, ils semblent tout à fait sortir de l'expérience de la langue qui explore l'orifice impénétrable du mamelon, ou de la tétine, d'où jaillit le lait. Et ce contact tactile, c'est fait comme ça, par rapport à l'organisation des circuits du plaisir, procure un plaisir sensuel qui participe sans doute à la jubilation, accompagnant la double interpénétration bouche-mamelon et œil à œil. Et dans la suite du développement, au moment des jeux au visage, où le bébé essaie alors avec l'index de pénétrer dans l'œil de la maman, ce qui est impossible et interdit, et la maman la invite à imaginer, invite à mimer, ça prend le relais de la langue dans l'exploration des objets, l'index plutôt, qui explore les petits orifices, et ça passionne tous les bébés de la fin de la première année de la vie, qui passent leur temps à chercher dans le décor tous les petits orifices, des chaises cannées, enfin tout ce qu'ils peuvent trouver, ou un bébé de 10 mois qui m'avait bien montré que pour l'exploration d'un petit éléphant, on vérifiait tout le contour, c'était très bien, et puis tout d'un coup il empoignait la trompe, et au bout de la trompe, il y avait le petit orifice du bout. Alors, on pourrait me dire, vous nous parlez d'une sexualité là qui n'est plus celle du bébé, mais si. Enfin, plus exactement, ce petit orifice du bout est connoté au visage. Et au moment où ce bébé que je ne connaissais pas, mais j'étais témoin de son exploration, et il me saute aux yeux, on peut dire, avec un moment de jubilation. Et il montrait que ça, cette communication avec le petit orifice pupillaire qui ouvre, qui est connoté à tous les autres petits orifices, ça donne vraiment un plaisir très très grand. Ça, c'est pour les circuits du plaisir. Alors, dans le deuxième semestre de la vie, à ce moment-là, je crois, je ne sais pas si Marie-Christine, vous serez d'accord, le mamanais n'a plus tellement besoin de s'utiliser, sauf chez les bébés pathologiques, parce qu'à ce moment-là, il y a un monde interne avec des représentations internes, y compris, pas encore tout à fait celles du visage, mais celles de forme, et de forme qui représente toute la communication. Ça, c'est ce que j'appelle la géométrie primitive. C'est-à-dire que toutes les premières communications sont vécues avec des images rythmiques de forme, de va-et-vient. Et quand la contenance, l'introjection de contenance se met en place, vous avez l'image mentale interne de cercle, de sphère, avec un noyau central et des boucles rayonnantes qui forment ce que Melzer avait appelé et Bion avait appelé le squelette interne de la contenance. Je vais vous revenir à la théorie des pulsions tout en pour m'entrecroiser entre nous.